Schweiz hat mehr als vier Sprachen.
So glossoso da, Eloé.
Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Simeon Achekpa. Avec d'autres collaborateurs, Sidi Amivi, Senam Kodjo, Sika Naomi, Josué Maoli et Esteban Gagnon.
Oui d'accord, avions la voix.
Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Oui d'accord, milagro, hello. Oui d'accord, avions la voix.
h à Lomé au Togo, même heure à Abidjan, Côte d'Ivoire. À mes auditeurs, il est 19h à Aro, en Suisse alémanique. Bienvenue dans votre émission panafricaine, Fenêtre sur l'Afrique, sur Radio Canal K et ses radios partenaires FM Liberté et Ben Radio, Radio Dénigment. Au sommaire de cette édition, Côte d'Ivoire, mutinerie des militaires suivie des grèves dans plusieurs secteurs du pays. Le pouvoir du président Alassane Ouattara vacille-t-il? Togo, après le départ de Yaya Jammeh de Gambie, ce pays étant le seul pays n'ayant pas encore cornu d'alternance, peut-on espérer une possible unicité d'action de l'opposition pour obtenir l'alternance? Amis auditeurs panafricains de la diaspora africaine, nous aborderons ces sujets avec nos invités qui seront en ligne en direct depuis Abidjan, Lomé et ici même dans la diaspora africaine. Merci de nous être fidèles. Amis auditeurs de la diaspora africaine, auditeurs panafricains, depuis plus de deux semaines, la Côte d'Ivoire est secouée par une crise sociopolitique qui ne dit pas son nom. Après la mutinerie des soldats de l'armée régulière, la crise s'est accentuée avec les grèves dans plusieurs domaines d'activité en Côte d'Ivoire. Même si le président Ouattara est arrivé difficilement à résoudre partiellement les revendications des soldats mutins, le pays retient en tout cas son souffle. Après ce mouvement d'humeur des militaires, des remaniements au sein de l'armée se multiplient. La dernière en date est celle annoncée à l'issue du Conseil des ministres jeudi dernier. Ainsi donc, Ouattara a procédé aux nominations des différents chefs de corps dans l'armée, principalement celle d'Issaka Ouattara, dit Ouattao à la garde républicaine. Comment expliquer le mouvement d'humeur des militaires ivoiriens? Le pouvoir d'Alassane Ouattara vacille-t-il? À mes auditeurs panafricains, pour en parler, notre invité est Arsène Thuro, écrivain spécialiste en politique ivoirienne. Il est en ligne en direct depuis la région parisienne.
Radio Denigbon, basée aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Avant de prendre notre premier invité sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire, accueillons d'abord en ligne en direct depuis Abidjan, Christiane Djaoui, militante des droits de l'homme et présidente de l'ONG Besoin d'agir. Elle nous fera le point sur la situation après la mutinerie des militaires ivoiriens suivie des grèves des fonctionnaires dans plusieurs secteurs. Christiane Djaoui, bonsoir.
Bonsoir Amos, bonsoir aux auditeurs de l'émission Fenêtre sur l'Afrique depuis la Suisse.
Christiane Djaoui, dites-nous, le pouvoir de Ouattara vacille-t-il après ces mouvements d'humeur des militaires ivoiriens suivis des grèves des fonctionnaires?
Le pouvoir de M. Ouattara vacille-t-il face aux différentes mutineries et à la contestation sociale qui secoue le pays? Oui, je crois que la crise que traverse la Côte d'Ivoire depuis le 5 janvier dernier montre que le pouvoir de M. Ouattara est bien plus fragile qu'on ne le pense. En effet, la mutinerie partie de Boaké et Korogo, deux villes devenues depuis 2002 les fiefs de l'ex-rébellion armée, dont le chef est l'actuel président de l'Assemblée nationale, et qui plus tard s'est étendue à différents corps d'armée, a profondément remis en cause l'autorité de M. Ouattara. De sorte qu'en l'espace de quelques jours, celui-ci a accédé aux revendications des mutins, portant principalement sur le paiement de primes considérées par les ex-rebelles comme étant une récompense pour avoir porté le chef de l'État, M. Ouattara, au pouvoir à la suite du contentieux électoral de 2010-2011. Un traitement jugé inéquitable par les autres corps d'armée qui sont entrés en contestation à leur tour. Ce mouvement d'humeur des soldats s'est soldé par au moins 4 morts, notamment à Yamoussoukro. À cela s'ajoute la grève des fonctionnaires et agents de l'État. Force est de constater que la grève a paralysé pendant 3 semaines l'administration, affecté le secteur de la santé publique et maintenu l'école publique fermée pendant tout ce temps-là, c'est-à-dire 3 semaines. D'où le soutien massif de la population scolaire et estudiantine aux travailleurs, notamment aux enseignants. Ici encore, il convient de reconnaître que le pouvoir de M. Ouattara a été défié. Parce que ce sont des choses qui n'auraient pas pu prospérer il y a 1 an ou 2. J'en veux pour preuve l'arrestation en 2014 d'une vingtaine d'agents du ministère du Commerce pour avoir revendiqué de meilleures conditions de vie et de travail. Mais aujourd'hui, face à la radicalisation des positions du gouvernement, les grévistes ont fait preuve d'une grande détermination collective, ce qui d'ailleurs leur a valu d'être enfin écoutés par le gouvernement. Ainsi, 5 des 6 points inscrits sur la plateforme revendicative déposée sur la table des négociations ont été satisfaits. Ce sont entre autres la nouvelle réforme sur la retraite jugée inique et antisociale par les fonctionnaires et le stock des arriérés. Enfin, il faut noter les violences qui ont entaché cette semaine la campagne pour les législatives du 28 janvier à Divo. En effet, ont été enregistrés durant cette campagne plusieurs actes de vandalisme, notamment l'incendie d'un camion podium appartenant à l'équipe de M. Mabry Touakeuse, président de l'un des partis formant la coalition au pouvoir. Cependant, M. Touakeuse n'a pas hésité à accuser la partie adverse, qui est pourtant issue des rangs du RHDP, et tenu le Conseil constitutionnel pour responsable des troubles à l'ordre public observés dans la ville de Divo. Pour rappel, l'élection législative du 18 décembre 2016 dans la circonscription de Divo et Quibli avait été invalidée par le Conseil constitutionnel au motif d'irrégularité constatée dans le processus de dépouillement.
En tout cas, merci beaucoup Christian Djaoui. Je rappelle que vous êtes militante des droits de l'homme et présidente de l'ONG Besoin d'agir. Merci et bonsoir depuis la Côte d'Ivoire.
Une radio en France, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci de votre fidélité sur le 3xw.canalk.ch et nos radios partenaires. Nous accueillons tout de suite en ligne en direct depuis la région parisienne notre invité ivoirien Acerne Touo, que comme je le disais, il est écrivain spécialiste en politique ivoirienne. Acerne Touo, bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Merci de nous accompagner en direct depuis la région parisienne. Il y a 2 semaines, un mouvement d'humeur des soldats ivoiriens a secoué toute la Côte d'Ivoire. S'en est suivi plus tard les grèves dans plusieurs secteurs. Et même si le président Ouattara a difficilement trouvé une solution partielle aux revendications, surtout des militaires, le pays retient néanmoins son souffle. Arsène Touro, comment expliquez-vous cette mutinerie des soldats ivoiriens? Est-ce que cette situation était prévisible?
Ben, écoutez, je vous remercie, monsieur. Comment j'explique la mutinerie des soldats en Côte d'Ivoire? Écoutez, la mutinerie, elle s'explique d'elle-même, puisque les mutins eux-mêmes ont donné les raisons de leur mutinerie. Ils ont revendiqué un certain nombre de primes à l'État de Côte d'Ivoire, enfin à M. Ouattara, parce que, disent-ils, ils ont travaillé à son accession au pouvoir et que lorsqu'il est allé les recruter pour cette mission, il leur a fait un certain nombre de promesses. Donc aujourd'hui, après un mandat, après 5 ans de mandat, ne voyant pas venir aucun signe de la réalisation de cette promesse à leur encontre, ils ont décidé de prendre les armes et de revendiquer par la violence. Donc écoutez, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas surpris parce que depuis que M. Ouattara est au pouvoir, le vandalisme étatique a été érigé en principe de vie et aujourd'hui, la preuve est là. Ces mutins, ces rebelles, ces mercenaires ont pris la Côte d'Ivoire en otage et ils ont fini par avoir gain de cause. C'est regrettable et à mon avis, à ce qui me concerne, c'est dommage. Et c'est surtout un précédent dangereux pour la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, depuis l'accession de M. Ouattara au pouvoir, On est en train d'enseigner à la jeunesse de Côte d'Ivoire, aux élèves, aux étudiants, que l'école est certainement une perte de temps et que la voie la plus sûre pour avoir une réussite sociale ou peut-être professionnelle, c'est la prise des armes. Moi, c'est à ce niveau que se situe mon inquiétude. D'accord. Et c'est là-dessus que se fondent mes craintes pour l'avenir de ce pays.
D'accord. Arsène Touho, au lendemain de la mutinerie, Alassane Ouattara a procédé au remplacement des trois hauts commandements des forces armées, et de la gendarmerie et de la police nationale. Et la plus récente nomination est celle de Ouattara à la garde républicaine. Votre commentaire?
Mais écoutez, là-dessus, je vais peut-être choquer les compatriotes de l'opposition, mais il y a deux choses. Est-ce que M. Ouattara a le droit de nommer qui il veut? À cette question, je réponds oui. Quand on est au pouvoir, on ne gouverne pas comme l'opposition veut. M. Ouattara, il est chef de l'État de Côte d'Ivoire, il a des prérogatives qui lui permettent de nommer, il a des prérogatives de nomination et il les utilise à sa guise. Donc, M. Ouattara nomme son fils, sa maîtresse, son épouse à des postes militaires ou quoi que ce soit, la loi le lui permet. À ce niveau, on ne peut pas lui contester ça. Par contre, le constat aussi est que quand M. Ouattara nomme les Ouattara, quand M. Ouattara nomme les chefs Ousmane, des soldats de premier rang qui sont connus pour ne pas avoir fait des formations de haut niveau, ça signifie que ce monsieur n'a pas comme homme de confiance des militaires bien formés. Il ne peut que se rabattre sur les mercenaires qui l'ont aidé à arriver au pouvoir par les armes. Et à mon avis, ces nominations retentissent comme la volonté de récompenser les gens qui l'ont mis au pouvoir par les armes. Et donc, moi, là-dessus, je voudrais inviter l'opposition, et je fais partie, à comprendre que tant que M. Ouattara sera au pouvoir, mais évidemment, la Côte d'Ivoire, c'est qu'il veut, et que si on est contre ces nominations tribalistes, ces nominations fantaisistes qui humilient l'armée de Côte d'Ivoire, dans ce cas-là, il faut que l'opposition se réorganise pour faire face à ce pouvoir-là, pour y mettre fin, afin que en Côte d'Ivoire, chacun soit à sa place. D'accord. Et que soit nommé à un poste qui le mérite.
D'accord. Parlons toujours de cette mutinerie. Boaké avait connu aussi cette mutinerie dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que Boaké reste-t-il un foyer de rebelles chroniques? Et justement, les S-Forces nouvelles de Soro Guillaume seraient-elles toujours en service malgré les grands discours d'intégration à l'armée républicaine?
Mais c'est le constat, il est amer, il est surprenant, il est dommageable, mais il est là. La ville de Boaké, malheureusement, reste le symbole de la déstabilisation en Côte d'Ivoire. La ville de Boaké reste l'icône du désordre en Côte d'Ivoire, malheureusement, parce que cette ville a été érigée en bastion, en base, en arrière-base de tout ce qui est action de déstabilisation du pouvoir. Et aujourd'hui, même encore avec M. Ouattara au pouvoir, cette ville reste toujours une ville rebelle. Et ces derniers événements nous ont montré que c'est de cette ville de Boaké que sont parties toutes les mutineries qui ont émaillé la Côte d'Ivoire et qui ont été signalées à Korogo, à Yamoussoukro et autres. Et c'est dommage. Et là aussi, c'est vous voyez, c'est le précédent fâcheux. Vous voyez, c'est l'enseignement dangereux qui est donné à notre pays où des villes sont considérés comme des no-man's land où des groupes parallèles armés font la loi au détriment de l'État et sous le regard impuissant des forces régulières. C'est dommage, mais aujourd'hui, effectivement, on peut constater que la ville de Boaké reste une ville qui est le symbole du désordre. Et coïncidence pour coïncidence, vous voyez, les mutineries qui ont commencé à Boaké se sont signalées à quelques jours de l'élection de M. Guillaume Soro à la tête de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. De que on commentait en disant que c'était M. Guillaume Soro qui a appuyé sur le bouton de ses forces rebelles pour soutenir son projet, c'est crédible, puisque effectivement, La coïncidence, elle est là.
D'accord.
Elle est notable.
Parlons justement de cet homme, Guillaume Soro, dont vous venez d'évoquer qu'il est réélu à la tête de l'Assemblée nationale. Quel regard portez-vous sur sa réélection?
Ben, écoutez, moi, la réélection de M. Guillaume Soro à la tête de l'Assemblée nationale, ce n'est pas une surprise, puisque l'Assemblée nationale elle-même de Côte d'Ivoire, elle est à 95% aux couleurs du parti au pouvoir et de ses alliés. Voilà, donc quand M. Guillaume Soro est imposé ou bien est nommé à la tête, parce que je dis nommé, vous remarquerez que je ne dis pas élu, quand il est nommé à la tête de l'Assemblée nationale, ben, c'est la preuve que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore de position.
Mais justement, pourquoi vous dites qu'il est nommé, il est réélu?
Mais je dis nommé parce que le processus de sa désignation à la tête de cette institution répond à un environnement qui est embrigadé par les partis au pouvoir. Vous comprenez? Voilà, on a assisté à des élections législatives auxquelles a participé une partie de l'opposition. Et malheureusement, c'est une partie de l'opposition qui ne reflète pas ou qui n'incarne pas l'entièreté des forces de l'opposition, c'est dommage. Et naturellement, les résultats étaient connus d'avance. Le passé de M. Ouattara et ses alliés ont raflé tous les sièges de l'hémicycle. Donc, la seule surprise, c'est qu'avant l'élection de M. Guillaume Soro, les négociations qui avaient cours montraient qu'il n'était pas en bonne posture parce qu'apparemment, M. Ouattara et M. Ali Conan Bédié avaient partagé les portefeuilles et que apparemment même ce poste de vice-président de l'hémicycle ne lui revenait pas. Mais à quelques jours de l'élection, il y a eu la mutinerie de Boaké. Et puis, à la grande surprise de tous les observateurs, il a été élu. Semble-t-il, il y a eu notamment des coups de fil que M. Ouattara a passé lui-même pour donner un mot d'ordre de vote aux députés du RDR et du PCI en faveur de M. Guillaume Soro.
Justement, parlons de la gouvernance d'Alassane Ouattara depuis la crise issue des élections présidentielles de 2010 et qui a justement conduit Laurent Koudjou-Gbagbo et Charles Blé Goudé en prison à la CPI, Cour pénale internationale. Alassane Ouattara a dit plusieurs fois qu'il a remis le pays sur les rails, notamment son économie. Il a même restructuré la politique dont vous dénoncez tout à l'heure. Mais justement, pourra-t-on dire que ce mouvement d'humeur des soldats est également une preuve que la réconciliation a échoué en Côte d'Ivoire?
Mais écoutez, il n'y a pas que la réconciliation. Le mouvement des mutins, le mouvement des ex-mercenaires de M. Ouattara qui se révolte contre lui est la preuve que en Côte d'Ivoire, la croissance économique que M. Ouattara brandit comme fait d'armes n'est pas une réalité. M. Ouattara, depuis qu'il est apparu au pouvoir en Côte d'Ivoire, a toujours clamé sur tous les toits du monde qu'il a remis ce pays sur le rail et que l'économie est à deux chiffres, etc. Mais écoutez, la preuve est là aujourd'hui. En plus de ces anciens mercenaires qui lui ont forcé la main, l'arme à la tempe, le pistolet à la tempe pour lui arracher les 5 millions de primes, il y a aussi les fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui sont entrés en grève parce qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a même les médecins, il y a les élèves et les étudiants qui sont entrés en grève. Il y a même d'autres corps de l'armée, notamment les pompiers, les gendarmes qui sont entrés en grève pour réclamer des dues à l'État de Côte d'Ivoire. C'est la preuve que ce gouvernement n'a que la communication fictive et, vous voyez, mensongère comme moyen de gouvernance. Et la croissance économique qu'il a toujours clamé a été aujourd'hui, détruite, ou la preuve contraire a été apportée par ses propres partisans, ses propres mercenaires, et que voilà, le pays n'est pas aussi rayonnant qu'il le prétend.
D'accord.
Malheureusement pour les Ivoiriens.
Une dernière question pour vous libérer en direct depuis la région parisienne, Arsène Thuo. Comment voyez-vous l'avenir de la Côte d'Ivoire d'après ces dernières actualités politiques? Est-ce que vous pensez, comme bon nombre d'Ivoiriens, que la sécurité des Ivoiriens est encore très loin d'être assurée?
Cher monsieur, je serai sincère avec vous. Je suis inquiet. Je suis inquiet pour mon pays. Parce que les derniers événements qui sont déroulés en Côte d'Ivoire ont montré que les armes ont encore la parole. Et quand je dis les armes, je ne parle même pas des armes légales, c'est-à-dire les armes parallèles. Les groupes armés parallèles ont encore la parole en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont des mutins qui réclament des primes de mission à l'État de Côte d'Ivoire. Qui nous dit que dans quelques mois ou dans quelques jours, d'autres mutins ou d'autres mercenaires ne se lèveront pas encore pour soi-disant réclamer qu'ils n'ont pas reçu leur part du butin. Quand dans un pays, les armes prennent la parole dans le débat politique, on est dans l'incertitude interminable et dans ces conditions, il est difficile de faire de la programmation politique, de la programmation économique. Et c'est en cela que mes craintes se fondent. Aujourd'hui, ce que je peux dire concernant l'avenir politique de ce pays, c'est que malheureusement, on a une opposition qui n'a pas encore compris la nécessité de pouvoir recouvrer son unité.
Oui, justement, à Arsène Thiou, chaque fois ce mot revient, l'opposition. Que fait concrètement l'Ivoirien lambda?
L'Ivoirien lambda, c'est le citoyen. Moi, je suis en train de parler de l'opposition, donc des leaders de l'opposition. Je dis que le constat aujourd'hui est que l'opposition est divisée. Il y a le parti phare de l'opposition, le FPI, qui connaît une crise interne depuis maintenant 4 ou 3 ans et qui est en lambeau, alors que ce parti... Le parti de Gbagbo Laurent devait être le fer de lance de l'opposition. Il y a des leaders de l'opposition, dont le mien, qui sont en exil. Et pour moi, dans ces conditions, les leaders de l'opposition devaient plutôt penser à ressouder les forces afin que, en face du pouvoir Ouattara, il y ait une opposition unie et qui passe d'une seule voie avec des méthodes harmonisées. Malheureusement, ce n'est pas le cas. D'accord. Et à mon avis, tant que ce n'est pas le cas, il sera difficile de déstabiliser ce pouvoir-là. Vous voyez, pendant 3 semaines, les fonctionnaires, les gendarmes, les militaires, les élèves, les étudiants ont été dans les rues en Côte d'Ivoire sans le soutien actif de l'opposition. Comment voulez-vous que l'opposition en Côte d'Ivoire soit crédible, inspire la confiance au peuple? Si chaque fois que le peuple est dans les rues,
Et justement, face à cette situation, rapidement, quel doit être le rôle de la société civile ivoirienne?
Dans ces conditions, la société civile ivoirienne joue toujours le rôle qui est le sien. C'est un rôle de sensibilisateur, un rôle de lanceur d'alerte. Et à mon avis, en Côte d'Ivoire, quand les fonctionnaires posent leurs problèmes, quand les élèves posent leurs problèmes, quand les militaires, quand tous les corps sociaux sont en branle, à mon avis, c'est déjà à ce niveau la société civile qui est en branle. Et à mon avis, la société civile en Côte d'Ivoire a joué son rôle comme elle le pouvait, à travers les fonctionnaires, les élèves. Et malheureusement, il n'y a pas eu ce soutien de l'opposition pour donner une force persuasive à ces revendications, et c'est dommage. Et malheureusement,
c'est dommage.
Des solutions ont été trouvées sans l'opposition, et pour moi, c'est dommage.
C'est dommage. Merci beaucoup en tout cas Arsène Thiou. Je rappelle à nos fidèles auditeurs et auditrices, câble sur le 3xW, canalk.ch sur FM Liberté, et bien Radio Dénigment, que vous êtes écrivain spécialiste en politique ivoirienne. Merci et bonsoir.
Bonsoir monsieur, je vous remercie.
TogoCity.com, IciLomé.com, TogoActualité.com, togo-online.co.uk, crdtogo.com sont nos sites partenaires de Fenêtres sur l'Afrique. Fenêtres sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Effectivement, nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés, actualité sociopolitique au Togo. Mais bien avant cela, et nous vous proposons notre éditorial. Après le départ de Yaya Jammeh de Gambie, le Togo étant le seul pays n'ayant pas connu d'alternance, peut-on espérer une possible unicité d'action de l'opposition pour obtenir l'alternance? À mes auditeurs de la diaspora togolaise, la question mérite une bonne réflexion. La roue de l'histoire tourne en matière d'alternance sur le continent africain en général, et en Afrique occidentale en particulier, faisant d'heureux bénéficiaires. Le vent violent porteur de cette nouvelle vient de souffler sur la Gambie, un pays géré de main de maître et de façon dictatoriale par Yahya Jammeh, qui a passé 22 ans à la tête du pays. De force ou de gré, ce dictateur qui prêche au nom d'Allah a fini par se faire déboulonner par la CEDEAO, la même institution qui a sombré les espoirs d'un peuple togolais surpris en 2005 par un vent violent qui a déraciné le grand baobab qui faisait ombrage à la bonne humeur et au bonheur des Togolais. Politique de deux poids, deux mesures, peut-on conclure. Inlassablement, le peuple togolais bat les pavés en vue de l'avènement de ce grand jour historique et prophétique cité par Feu Kwame Silvanus Epifanio Olympio à travers la phrase fétiche du fameux discours de l'indépendance, je cite, « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. » Fin de citation. Beau, les espoirs s'estompent. Beau, ce jour ne vient nullement. Tout se joue aujourd'hui autour de la crédibilité de tous ces fameux opposants qui s'opposent entre eux, plus qu'ils ne s'opposent à ce pouvoir cinquantenaire qui s'apprête à couler le navire après avoir dilapidé ses ressources. Ne jurant que par le nom d'une fameuse communauté internationale qui ne s'attache qu'à ses intérêts en difficulté. Aujourd'hui, le Togo est le seul pays dans la sous-région ouest africaine réfractaire à l'avènement de la démocratie, l'alternance, la justice, l'état de droit, etc. Nous serions à la place du prince héritier des terres de papa, Fort Nassingbé, nous voulons dire que nous commencerions à négocier une porte de sortie avant l'arrivée d'un fâcheux déguerpissement dont le temps est fixé. S'inspirant du rôle déterminant du peuple au Burkina Faso, face aux dictateurs et transhumants de mercato politico-nationalistes Blaise Compaoré et tout récemment de la Gambie, les exemples sont nombreux. Le peuple togolais doit s'arroger le droit de seul opposant devant la dictature cinquantenaire qui a pris en otage depuis 50 ans le sourire de la majorité et la minorité baignant dans un enrichissement illicite d'une insolence assassine. Peuple togolais, sans ton sacrifice, la lutte n'aboutira jamais. Tu le sais mieux que quiconque. L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne méritait pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Inspirant du grand combattant de la liberté des peuples, Feu Thomas Sankara. Des mots bien choisis pour te dire, peuple togolais, qu'il est temps que tu dises non aux intimidations, à la manipulation et à la résignation. Oui, il est temps que tu regagnes d'espoir et avances sans tergiversation. Et nous, de la diaspora togolaise, notre rôle doit être déterminant dans ce tournant décisif qui se précise et qui avance à grands pas. Comme Dr Yves Ekwe Amaïso l'a dit tout récemment sur nos antennes, que les intellectuels de nos rangs prennent conscience pour relancer la machine avec conviction. Plus de commérage, nous en avons assez fait. Prenons l'exemple des fourmis qui s'alignent derrière un leader de groupe pour ensemble atteindre un objectif commun. Regardez comment le pays se gère, comme une épicerie au village des non-voyants, de gaspillage en gaspillage, de sommet en sommet, de voyage en voyage, le tout dans un tourbillon de gabegie qui n'apporte malheureusement que des dettes colossales que les générations futures vont consacrer leur vie à payer. Affamer le peuple pour nourrir une diplomatie insensée, voilà, est devenue la règle qui justifie l'existence de ces usurpateurs. Peuple togolais, ton destin est à la croisée des chemins. À toi de décider et non à personne d'autre. Car, en vérité, tu es le seul et vrai opposant à ce régime cinquantenaire. Et pour conclure, chers amis auditeurs, nous paraphrasons encore une fois Feu Thomas Sankara qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne méritait pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Novio, à volonté. Quelle analyse les acteurs politiques du Togo, notamment leaders d'opposition, font de la situation sociopolitique qui prévaut au Togo au moment où des pays comme la Gambie trouvent le bout du tunnel? Et quelle approche de solution pour permettre un dénouement de la crise togolaise? Notre correspondant au Togo, Rodrigue Aigo, a tendu le micro de votre émission Fenêtre sur l'Afrique à Claude Abegavi, secrétaire chargé à la coordination du Parti des travailleurs. Nous vous proposons de suivre cet entretien exclusif.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analyse. Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Fidèles internautes câblés sur Radio Canal K, bonjour, bonsoir et merci de votre fidélité à l'émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous sommes en direct de Lomé, la capitale togolaise, où nous recevons pour vous le secrétaire à la coordination du Parti des travailleurs, Monsieur Claude Amegavi. Bonjour.
Bonjour.
D'entrée, dites-nous comment se porte le Parti des travailleurs.
Le Parti des travailleurs va bien.
Nous allons aborder avec notre invité, bien sûr, l'actualité sur le continent avec le feuilleton Djamé Baro, l'actualité au pays avec la question cruciale des réformes, les élections locales, les nouvelles possibilités d'une unicité d'action de l'opposition togolaise et la diplomatie avec la dénonciation par le Parti des travailleurs du fameux don de 5 milliards empoché par Manuel Valls, selon toujours ce parti. Alors, dites-nous, Monsieur Claude Amegavi, comment analysez-vous tout le cirque qui a abouti au départ, en fin de compte, de Yahya Jammeh à la tête de la Gambie?
D'abord, je dois me féliciter et féliciter le peuple gambien d'avoir remporté une si brillante victoire en chassant du pouvoir Yahya Jammeh, qui était en place depuis, comme vous le savez tous, 22 ans.
Est-ce que c'était une chasse? Il a perdu les élections.
Oui, oui, mais s'il a perdu les élections, c'est que le peuple l'a chassé. Certes, par la voie des urnes, mais le peuple s'est débarrassé de lui. Et c'est pour cela que nous disons que le peuple gambien l'a chassé du pouvoir. Et cela démontre encore une fois que, quelle que soit la volonté des dictateurs de tout acabit, mais la volonté des peuples finit toujours par être forte, plus forte. Et aussi longtemps que peut durer la tyrannie, eh bien, les peuples arrivent à toujours trouver les voies et moyens par lesquels s'en débarrasser. Aucun régime dans l'histoire n'a su résister au torrent déferlant des peuples. Et c'est la belle leçon que la Gambie vient de nous administrer. Qui aurait pu penser qu'à la faveur d'un processus électoral, concocté de main de maître par Yahya Jammeh lui-même, pour se reconduire au pouvoir, eh bien, l'impensable surviendrait, c'est-à-dire la contradiction qui verrait que le peuple se saisirait de cette occasion pour se débarrasser de lui, eh bien, cela a bien fini par arriver un jour. Et cela montre également qu'il y a un puissant vent de changement qui déferle sur l'ensemble de l'Afrique. Je veux insister particulièrement sur le fait que la Gambie et le Togo sont en Afrique de l'Ouest les rares pays où se maintiennent des dictatures qui sont au pouvoir depuis plus de 20 ans. Et avec le départ de Yahya Jammeh, ne reste maintenant que le régime togolais du clan des Eyadema Nyasimbe, actuellement dirigé par Faure et Sazimla. Et donc, c'est la preuve que, après la Gambie, mais manifestement, nous allons assister au tour du Togo. Et quelle que soit la volonté objective ou subjective de Faure et Sazimla, eh bien, le torrent de cette volonté de changement que manifeste le peuple togolais, à notre avis, va surgir et va le balayer. Et c'est sûr que la manière dont nous analysons l'évolution de la situation politique nous laisse penser que ça ne se passera pas nécessairement comme ce qui s'est passé en Gambie, c'est-à-dire par la voie électorale. Parce que dans le cas du Togo, vous savez comment l'ensemble des processus ont été verrouillés au niveau électoral à partir des fichiers truqués que on fait valider par les opposants avant que les élections ne surviennent. Et le peuple togolais a compris que sur cette voie-là, eh bien, il n'y a pas et il ne peut y avoir de salut pour lui. Donc, je suis porté à penser que le peuple togolais choisira d'autres voies pour se débarrasser de ce régime qui, vous le savez, dans l'histoire, il y a plusieurs modes de changement du pouvoir. Certes, il y a la voie électorale, mais il y a la voie de la révolution, il y a la voie des coups d'État, il y a la voie des guerres et il y a la voie des négociations. Mais dans la mesure où, au Togo, nous sommes confrontés à un régime cinquantenaire qui est là et qui n'entend pas quitter le pouvoir, parce qu'il a tellement commis de crimes politiques, de crimes de sang et de crimes économiques, qu'il a peur de rendre compte et ne veut pas quitter le pouvoir. Et donc, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut nécessairement que le peuple togolais déloge le régime de la dictature du clan des Banyasimbe du siège du pouvoir au Togo.
Et quand vous dites déloger, qu'est-ce que vous y mettez?
Non, déloger, ce n'est pas des actions de masse. C'est-à-dire, de notre point de vue au Parti des Travailleurs, et ça, nous le disons depuis notre fondation en 1988, c'est par la mobilisation révolutionnaire des masses togolaises que cela peut intervenir, et cela doit intervenir, et cela va intervenir.
Alors, pour pouvoir permettre un dénouement à cette situation qui perdure, toutes les années qui ont précédé 2017 ont été consacrées à un cercle infernal de dialogue, de concertation, d'aucun parlerait de roublardise. Ça, tout tournait autour de la question des réformes. Alors, Monsieur Claude Amégenvi, est-ce qu'aujourd'hui vous espérez toujours ces réformes? Est-ce que c'est possible que ça ait lieu?
Moi, je vous réponds clairement non. Non. Et trois fois non, parce que si le régime RPT Unir avait voulu faire les réformes, en une nuit, il les aurait faites. De la même manière que Faure Sazinya Nyasimbe, après le 5 février 2005, au décès de son père, en une seule nuit, a modifié la constitution, est parti de sa position de ministre pour devenir parlementaire, pour devenir président de l'Assemblée nationale et pour s'auto-proclamer à partir de là président par intérim de la République togolaise. S'ils ont pu faire tout cela en une seule nuit, mais normalement ces réformes ne devraient pas durer aussi longtemps. Et donc le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que la question des réformes finalement est devenue une tarte à la crème pour maintenir en place ou sauver le régime de Faure Sozimna et Adema Nyasimbe. Et cela dans une complicité parfaite avec les partis qui se réclament de l'opposition et qui jouent très bien le jeu. Parce que ils ne font que parler de réformes, ils ne font qu'en parler et ils donnent l'occasion au régime à partir de là de gagner du temps. Aujourd'hui, on va nous dire qu'on a mis en place une institution qui s'appelle le H-Krun, qui va s'occuper... Non, j'en viens. D'abord, il y a eu la création du H-Krun, qu'on a attendu très longtemps. Une fois qu'elle s'est mise en place, elle a voulu rencontrer les acteurs politiques. Ça a pris tout un autre temps. Bon, après cela, comme ça ne bougeait pas et que le peuple commençait à s'impatienter et que ça commençait à jaser de tous les côtés, eh bien, on a fait convoquer par le H-Krun un atelier sur les réformes, bon, qui a duré le temps que ça a duré. Après, on a attendu de longs mois, rien, on a vu rien venir. Et comme ça a commencé à jaser encore, eh bien, on nous a dit que on a sorti un coup de baguette magique pour nous dire maintenant qu'on a mis en place une commission pour les réformes. Et attention, cette fois-ci, ce n'est pas simplement une commission pour étudier les réformes à mettre en œuvre dans le cadre de ce qu'on a appelé l'ALPG, qui est un autre marché de dupes, c'est-à-dire la mise en œuvre dite consensuelle avec les partis de l'opposition de ces réformes-là. Mais cette fois-ci, c'est pour étudier un projet de réforme globale de nos institutions qui, à le penser aujourd'hui, tendrait vers la modification du régime en place au Togo, d'un régime semi-présidentiel vers un régime présidentiel. Or, comme y compris certains dirigeants de l'opposition se sont prononcés en faveur d'une modification des institutions togolaises vers un régime présidentiel, le boulevard est ouvert pour Faure Sozimna et Adema Nyasimbe pour faire cette régression-là qui, à travers les institutions, donnerait un pouvoir illimité au chef de l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République.
Donc, c'est vers quoi?
Non. Au contraire, ce que nous risquons, ce qui nous pend au nez, c'est qu'on fasse une contre-réforme majeure qui va liquider une bonne partie des acquis démocratiques que nous avons arrachés depuis le soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Parce que, vous reconnaîtrez comme moi, que passer d'un régime semi-présidentiel où les pouvoirs du président de la République sont limités, même s'il y a eu ce tripatouillage de 2002, qui l'a vidé de son contenu, partir de là et revenir à un régime présidentiel, c'est réinstaurer l'arbitraire, la dictature. Et avec les fraudes électorales à répétition, chacun sait que la voie serait ouverte à partir de là pour que Faure et Sozinima Nyasimbe se maintiennent au pouvoir jusqu'en 2020 et peut-être rêvent de se maintenir au pouvoir à vie comme son feu son père.
Alors, l'une des questions qui marque également les débats, c'est celle liée aux élections locales qui constitue un point d'attraction des réformes. Peut-on toujours espérer aussi ces élections locales-là?
Mais la question des élections locales est comme celle des réformes. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on joue avec le peuple togolais. Ce que nous voyons là concrètement, c'est que le régime RPT Unir, avec la complicité de l'opposition, se moque du peuple togolais. J'ai entendu un des acteurs de l'opposition sur une chaîne hier, une de vos consoeurs, mais qui expliquait qu'eux, ils sont un régime, ils sont une opposition responsable. Parce que vous savez actuellement qu'il y a les deux grands blocs fondamentaux, c'est-à-dire le bloc de CAP 2015 et l'autre bloc sans nom qui s'est constitué avec les six partis autour des FDR qui dernièrement. Eh bien, ils se présentent comme étant une opposition responsable, mais j'interpelle l'opinion. Qu'est-ce que c'est que cette opposition responsable devant un régime RPT Unir totalement irresponsable? Comment peut-on se dire responsable devant un régime irresponsable qui est coupable de crimes abjects de sang depuis 50 ans et qui est coupable du pillage, du détournement de nos fonds publics de manière invétérée. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas le rôle que jouent les ambassadeurs. Alors, tout ce terreau-page de partis politiques de l'opposition dites responsables ne jure que par les ambassadeurs, que par les puissances internationales, que par la CDAO, que par l'ONU, etc. Comme si c'est l'étranger qui va venir changer la situation à notre place au Togo. Donc, véritablement, on voit là qu'il y a le maintien d'une servitude politique volontaire sur la situation du Togo. Et c'est comme si on confierait à d'autres acteurs extérieurs mais le fait de vouloir changer la situation togolaise à notre place. Alors que, d'abord, c'est avant tout au peuple togolais qu'il appartient de se mobiliser. Et donc que ces partis fassent un travail précis de réflexion sur les stratégies à développer pour mobiliser le peuple togolais du sud au nord, de l'est à l'ouest, mais pour en finir avec ce régime. Et si la dynamique avait été celle-là, eh bien, les choses auraient changé depuis longtemps. Et donc, quelque part, l'autre impression que j'ai, tant en ce qui concerne les élections locales que en ce qui concerne les élections législatives de l'année prochaine 2018, puisque, vous savez, elles ont commencé à se préparer déjà, puisque chacun des acteurs se dispose. Et on a l'impression aujourd'hui que la constitution des différentes coalitions n'a pour objet que de faire des tractations sur la répartition, la pré-répartition des circonscriptions électorales où les candidats se positionneraient les uns et les autres pour que chacun puisse avoir sa part du gâteau ou à l'Assemblée ou à la tête des municipalités, etc. et tout ça. Et donc, cela, véritablement, c'est triste. Et donc, on voit en réalité, comme nous n'avons cessé de le dire, que la situation politique au Togo est un fonds de commerce pour certains dirigeants de l'opposition togolaise, pour le régime lui-même, mais c'est une source de manne infinie. Et donc, finalement, ce que les gens cherchent, c'est à partager le pouvoir, l'Assemblée, les institutions, avec le régime RPT Unir. Parce que, au fond de la crise togolaise, mais c'est ce qu'il y a depuis le soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Rappelez-vous de ces fameux gouvernements d'union nationale. Rappelez-vous de comment, lorsque, après la découverte des cadavres à la lagune de Baie, le 11 avril 1991, Kofigo et Agboibo sont montés au créneau pour dire qu'il n'était pas question qu'Yadema s'en aille. Hein, parce que s'il partait, il y aurait un vide politique. De la même manière, on a l'impression aujourd'hui que la plupart des responsables politiques de l'opposition estiment qu'il ne faut pas que Forest Ozinna Nyasingbe quitte le pouvoir ici et maintenant. Je ne sais pas s'ils iraient jusqu'à dire, comme Agboyiwe Kofigo en 1991, que si Force s'en va, il y aura un vide politique. Mais je constate que la réalité de la politique qui va être en œuvre, c'est celle-là. Et c'est absolument pitoyable. Ce qui nous emmène à proclamer qu'il faut désormais que le peuple togolais règle la question de l'impasse politique de la situation togolaise par lui-même, par sa propre mobilisation, indépendamment des partis de ces partis qui finalement ne font que le trahir. Et je pense que ce processus est en bonne voie, si j'en juge par la mobilisation indépendante que développe le peuple à travers ses organisations représentatives, notamment syndicales. Comme vous le voyez actuellement, à travers la grève des enseignants, qui est très ferme sur la revendication de ses droits, et que pour notre part, partie des travailleurs, nous soutenons totalement.
Alors, à vous écouter tout à l'heure, on a senti un peu l'approche unicité d'action de l'opposition du groupe de 6 au courrier du président du PRR, Jean-Nicolas Lawson, chef de file de l'opposition. On sent encore cette envie. Est-ce que c'est possible, cette unicité d'action, parce que vous y avez participé d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'aujourd'hui, cette unicité d'action peut être une réalité?
Eh bien, moi, je suis désolé de vous dire, mais une unicité d'action, pourquoi? On va me dire une unicité d'action pour arracher les réformes. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la question des réformes, c'est juste une tarte à la crème pour faire gagner du temps au régime RPT. Personne n'y croit. On le dit pour exister sur la place politique. Et donc, moi, je ne vois pas l'intérêt qu'il y a d'appartenir à des regroupements unitaires pour faire gagner, pour sauver le régime RPT unir. Et donc, vous voyez et vous verrez comment ces regroupements-là iront en se déchirant, en se disloquant les uns après les autres. Hein, parce que le fondement sur lequel ils basent leur regroupement est un fondement qui est totalement contraire aux intérêts du peuple togolais. Les intérêts fondamentaux du peuple togolais, c'est quoi? C'est que ici et maintenant, et tout de suite, Fort et Sozimna et Yadema Nyasingbe s'en aillent. Et ça, tous les partis qui s'agitent dans le landerneau politique, ils n'en veulent pas. Parce que tous veulent attendre le calendrier responsable, entre guillemets, des élections législatives de 2018, en espérant qu'on les couplerait avec les locales. Et tous vont casser toute mobilisation indépendante du peuple togolais pour faire partir Forest Ozinna Nyasingbe avant 2020. C'est la triste réalité de la situation togolaise. Alors, si on veut faire une unité pour casser les mobilisations du peuple togolais, moi, je vous dirais que ça ne m'intéresse pas. Vous me posiez la question de savoir, oui, mais vous avez participé au regroupement unitaire de l'opposition par le passé. Oui, trois fois oui. Et je vous indiquerai qu'en 1991, c'est nous qui revenions d'exil pour apporter une plateforme qui a servi de base à la confection de la plateforme unitaire du Code FOD, sur laquelle on a lutté à l'époque, en espérant que, à travers les grèves générales que nous avons proposées et fait développer des années 91 jusqu'aux années 92-93, mais on puisse chasser le pouvoir des Yadema. Mais là également, mais nos aînés ont fait barrage pour que Yadema s'en aille, pour que Yadema s'en aille pas. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose qui est en train également de se passer. Et donc, moi, je ne vois pas aujourd'hui de plateforme qui rassemblerait, parce que la plateforme toute simple, qui serait une véritable plateforme, qui rassemblerait de véritables organisations de l'opposition, qui permettrait de sortir de la situation togolaise d'aujourd'hui, c'est une plateforme qui sera en une seule phrase: nous, partis politiques sous-signés, décidons de nous engager pour rassembler le peuple togolais, pour faire partie Forest Ozinna et Yadema Nyasingbe, ici et maintenant. Point. C'est très simple, c'est très clair. Et volontiers, cette proposition-là, je la fais. Et si des partis sont d'accord pour se regrouper ou se coaliser sur ce mot d'ordre très clair et très simple, eh bien, moi, je serai toujours avec eux. Pour notre part, nous n'avons jamais adhéré au FRAC. Tout comme nous n'avons jamais adhéré à une coalition électorale au Togo, dans la mesure où ces coalitions électorales n'ont fait que participer à des élections qui sont dans les marchés de dupes. Par contre, lorsque des coups d'État électoraux se sont faits, que Yadema ou Fort aient volé, après qu'ils aient volé les élections, nous avons été toujours partie prenante des mobilisations pour dénoncer les coups d'État électoraux, les fraudes électorales et indiquer que le résultat sorti des urnes ne correspond pas à l'expression de la volonté populaire du peuple togolais. Donc ça, nous l'avons toujours fait et nous continuons à le faire.
Très bien. Alors, quand vous avez décidé d'effectuer une sortie, vous avez pointé du doigt une sulfureuse affaire de 5 milliards de francs CFA, parlant d'un don, si on peut l'appeler ainsi, du chef de l'État, Fornia Simbé, à Manuel Valls, le premier ministre français, candidat aujourd'hui à la succession de François Hollande. Alors, est-ce que vous avez les preuves de ce qu'on peut appeler accusation?
Eh bien, je vais vous dire une chose. Vous savez, dans les années 90, vers 1991, puisque moi je suis resté au Togo d'avril 91 jusqu'au 3 décembre 91, où suite au coup d'État de la prise de la primature, je suis parti en exil au Bénin. Bien. Eh bien, ce qui s'est passé pendant cette période où j'étais là, c'est que le régime d'Eyadema se décomposant sur pied et menaçant de disparaître, nous avons vu quoi ? Nous avons vu beaucoup de gens quitter le régime RPT Unir ou le ministère de l'Intérieur. En faisant quoi ? En nous apportant des informations sur ce qui se tramait à l'intérieur du régime contre le peuple togolais, contre l'opposition togolaise, etc. Et c'est ainsi notamment qu'à la conférence nationale, vous avez eu cette chose extraordinaire où des militaires, y compris, quittaient leur caserne pour venir témoigner devant la conférence sur les plans d'assassinat qu'on leur faisait ourdir à l'intérieur des camps militaires, etc., pour mettre le peuple togolais en garde, etc., etc. Alors, ceci pour dire quoi ? Ceci pour dire tout simplement qu'il y a une réalité de ce qu'on appelle la marine à voile, qui dit que lorsque le bateau est en train de sombrer, de se noyer, les rats quittent le navire. Eh bien, c'est ce qui est exactement en train de se passer actuellement. C'est-à-dire que tout le monde voit que le régime de Faure Sozimna et Yadema Nyasimbe se décompose sur pied avec toutes ces affaires de corruption, toutes ces affaires de malversation, toutes ces affaires d'assassinat, etc. et tout. Et donc, beaucoup de gens sont inquiets de leur propre sort demain. Et vous avez vu comment, lorsque le régime de Yahya Jammeh a commencé à se décomposer, et bien ces ministres ont commencé à partir. Qui en exil? Qui a annoncé qu'il quittait le régime? Les ambassadeurs, à le lâcher, etc. Et c'est le même processus qui est en train de se passer aujourd'hui. Et dans cette année 91, dont je vous parlais tout à l'heure, nous recevions des informations de l'intérieur même du régime, indiquant que tel plan, tel complot était ourdi contre l'opposition ou contre le peuple togolais, et nous révélions ça. Et le fait de le révéler, eh bien, des fois, arrivait à déjouer tout ce qui se tramait contre le peuple togolais. Alors, pour notre part, c'est ce que nous avons tout simplement, en tant que Parti des Travailleurs, voulu faire. Alors, des gens du régime ont fait en sorte que nous puissions avoir cette information, comme nous avons pu en avoir d'autres, lesquels viendront au fur et à mesure par la suite. Mais pourquoi ? Certainement parce que quelque part, ils pensent que nous sommes des gens dignes de foi, dignes de confiance, et que nous n'irons pas les trahir. Et pour notre part, comme pour vous les journalistes, un journaliste ne donne jamais les sources à ses sources.
La règle d'or.
C'est la règle d'or, c'est une règle d'or du journalisme, et c'est une règle d'or de l'action politique, parce que vous savez que dans ce pays de dictature où nous sommes, si on venait à savoir que c'est telle ou telle personne qui a donné cette information, sachez que vous avez condamné cette personne à mort. Ce que nous ne ferons jamais. Et donc, nous avons pris nos responsabilités et nous avons donné cette information pour que le peuple et l'opinion mondiale soient informés de cette forfaiture qui s'est faite ici au Togo, où on a prélevé 5 milliards des caisses de l'État togolais pour donner comme ça gratuitement cadeau à un acteur politique, à un homme politique français qui n'est pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du premier ministre en existence à l'époque de l'État français. Ce n'est pas rien. Mais j'ajouterais que ce qui s'est passé là n'a rien de nouveau, puisque c'est une coutume, c'est une habitude. Les choses se sont toujours passées comme ça. Par le passé, vous avez eu Albert Bernard Bongo, feu Albert Bernard Bongo, et à propos du Burkina Faso également, tout un tas de révélations qui ont été faites sur comment, à l'approche des élections présidentielles, de chaque élection présidentielle en France, eh bien, les acteurs politiques français, ceux qui sont candidats à ces élections-là, font le tour des dictateurs africains pour venir prendre de l'argent chez eux pour leur campagne. alors que nos pays sont pauvres, hein, croulent sous la famine, la misère, etc. Mais paradoxalement et contradictoirement, c'est l'Afrique qui finance les pays pauvres qui financent les campagnes des pays riches. Quand même, c'est extraordinaire cette affaire-là. Et donc, on a appris par le passé comment soit c'est par des valises, des fois c'est dans des djembés, c'est-à-dire ces fameux tambours, hein, que ça c'est les djembés, c'est pour le cas du Burkina Faso et du Mali, qu'on convoie ces fonds-là, hein, vers les acteurs politiques français. Et j'ajouterais qu'il y a une question d'actualité qui rebondit actuellement en France. C'est sous tout ce vent de corruption qu'il y a dans la classe politique française, qui explose, hein, et qui touche les acteurs politiques les uns après les autres. C'est-à-dire que la corruption, ils ne viennent pas seulement la mettre en œuvre en Afrique, hein, en obligeant nos dictateurs à détourner des fonds publics pour leur donner, avec l'engagement en contrepartie, lorsqu'ils seraient élus, de les soutenir et de les maintenir au pouvoir à vie, comme c'est le cas du Togo. Mais on voit également que c'est dans l'arène parlementaire, notamment, qu'on détourne copieusement des fonds. Hein, il y a eu de retentissants scandales, hein, par le passé, les affaires Nouchi, les affaires de je ne sais trop qui, et tous les responsables politiques, je lisais sur internet hier, hein, bon, comment Jean-Christophe Cambadélis, hein, l'actuel secrétaire général du PS, Harlem Désilie, qui est commissaire européen, ont été épinglés par la justice française, et Madame Fillon, aujourd'hui, hein, dans des affaires de détournement de fonds publics. Donc, à partir de cette réalité de la pourriture, de la corruption qui est semée dans la classe politique française en France même, eh bien, nous assistons à une véritable exportation, hein, de cette corruption-là dans nos pays, et cela est triste. Alors, la solution, c'est quoi? C'est de se lever, de faire en sorte qu'on puisse mettre fin à ces régimes-là qui sont préparés, mis en place par l'impérialisme français, moi j'appelle les choses par leur nom, hein, pour continuer à opprimer nos pays et à permettre à la France de piller nos pays. Cette fameuse France-Afrique dont on a parlé, et qui est le terrain sur lequel on organise le pillage de nos pays, mais c'est véritablement ce que nous voyons à l'œuvre à travers cette histoire de corruption.
Alors, en guise de mot de fin, quel appel avez-vous aujourd'hui à lancer au Parti des Travailleurs, à l'endroit de tous les acteurs, chacun ce qui le concerne, pour que le Togo connaisse du renouveau?
Eh bien, moi, je n'aurais pas à lancer un appel à l'endroit des acteurs politiques. Vous ne l'avez pas dit comme ça, mais vous avez parlé des acteurs. Et donc, pour moi, il s'agit de la classe politique. Moi, je n'ai rien à leur dire. Parce que ce qu'ils devaient faire, ils le savent très bien. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne veulent pas le faire. Ils ont fait des choix qui n'est pas le mien. Donc, je ne vais pas prêcher dans des oreilles de sourds aujourd'hui. Et dire « faites-y », etc. Alors que des gens ont d'autres agendas. Ce, par contre, à qui je vais m'adresser, c'est au peuple togolais. Celui à qui je vais m'adresser, c'est au peuple togolais. C'est aux travailleurs, aux paysans, aux jeunes. En les appelant à renforcer leur détermination dans la lutte pour tourner les pages sombres du régime du clan des Eyadema Niassimbe. Et donc, de la même manière que nous l'avons vu en Gambie, mais par l'originalité de la méthode que nous allons utiliser, le peuple togolais sache se mobiliser pour que cette année 2017, nous puissions en finir avec les 50 ans de régime du clan des Eyadema Niassimbe. Parce que, précisément, c'est le 14 avril prochain que le régime, ce régime-là, RPT Unir du clan des Eyadema Niassimbe, aura terminé ses 50 ans de pouvoir et entamera sa 51e année. Et ça fait deux générations. Et deux générations, pour le petit Togo, c'est trop. Parce que c'est deux générations d'assassinats, deux générations de pillages, deux générations de crimes de sang innommables, etc. Et j'estime que c'est deux générations de trop. Il faut, pour préparer un avenir radieux pour le peuple togolais, que ce régime-là soit balayé. Et si certains opposants veulent à tout prix l'accompagner pour lui sauver la mise et le maintien en place, hein, bon, pour engranger quelques millions, voire quelques milliards à son nom, eh bien, que cette opposition irresponsable-là soit balayée également comme ce régime irresponsable.
Alors, M. Claude Amegavi, je rappelle que vous êtes le secrétaire chargé de la coordination du Parti des Travailleurs. Nous vous disons merci pour votre disponibilité.
Merci à vous également d'être venu à moi pour que je m'adresse à travers vous au peuple togolais. Merci à vous.
Merci donc à l'instant le secrétaire à la coordination du Parti des Travailleurs, Claude Améganvi. Avec lui, nous avons abordé les questions d'actualité, bien évidemment ce qui se passe en Gambie, ce qui se passe également dans notre cher pays, le Togo, et parler de ce don du chef de l'État, Fornia Sibé, à Manuel Valls. Vous avez tout compris. Merci donc à vous aussi pour votre fidélité à notre émission Fenêtre sur l'Afrique. Bonne suite, au revoir.
Radio Denis Bon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Il a l'habitude d'adresser des lettres ouvertes au président Fornia Sibé pour le rappeler à l'ordre sur la gestion chaotique du Togo sur le plan politique et économique. Lui, c'est Nicolas Lawson, président du Parti du Renouveau et de la Rédemption PRR, qui a cette fois-ci adressé une correspondance au chef de file de l'opposition Jean-Pierre Farr. L'objectif, c'est d'œuvrer pour une unicité d'action en vue de l'obtention des réformes politiques attendues depuis quelques années par la majorité du peuple togolais. Au regard des mépris de tout genre, égoïsme, de leadership qui gangrène l'opposition depuis quelques années donc, des Togolais s'interrogent sur cette démarche de Nicolas Lawson. Y a-t-il une sincérité dans ce geste louable? Qu'est-ce qui justifie cette interpellation? L'unicité d'action est-elle un facteur clé de cette démarche? Amis auditeurs de la diaspora togolaise, pour aborder ces inquiétudes, aussi légitimes soient-elles, notre invité en direct depuis Lomé est Nicolas Lawson. Nous l'accueillons dans quelques instants. Nicolas Lawson, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous depuis Lomé au Togo. Vous êtes le président du Parti du Renouveau et de la Rédemption. Vous avez l'habitude d'adresser des lettres ouvertes au président Fornia Sibé, justement au moment où vous affichez un regard critique et sévère à l'endroit du chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Alors pourquoi le choix subit de lui adresser une lettre pour une possible action commune au profit des réformes politiques? Alors, qu'est-ce qui justifie cette interpellation, Nicolas Lawson? Est-ce que vous êtes sincère dans votre démarche? Justement, trois questions qui en font une inquiétude globale, Nicolas Lawson.
Ouais, voyez-vous, souvent des gens font des interprétations tendancieuses des démarches que j'effectue. Moi, je suis constant dans ce que je fais et je n'ai pas commencé à faire de la politique au Togo en 1990. J'ai déjà commencé à interpeller l'ancien président, le général Gnassingbé Eyadema, depuis 1976. Et je l'ai obligé à doter le Togo d'une constitution en 1980. Et c'est avec cette constitution de 1980 que je suis rentré au Togo après pour aider la CNDH et notamment M. Hervé Aguibo en lui procurant non seulement les textes qui devait nous aider à obtenir la liberté de presse, c'est-à-dire le décret de Silvano Solitio du 29 septembre 1959, qui n'était pas abrogé, et la loi universelle sur la presse de 1881. C'est avec cela que nous avons contraint l'ancien président Gnassingbé Eyadema à accorder la liberté de la presse au Togo. Puis également l'article 10 de la Constitution de 1980, qui permettait donc la liberté d'association. Et avec cela, nous avons obtenu le droit de créer les associations pour créer le FA, ainsi de suite, jusqu'à la Conférence nationale souveraine. D'accord. Mais après, le mouvement qu'on avait déclenché a été un mouvement qui a été pris en otage par des forces divergentes. Et ainsi de suite, on a constaté amèrement que ce qu'on appelle l'opposition togolaise était divisée en ceux qui se considéraient comme les vrais opposants, ceux qui sont de faux opposants, ainsi de suite et tout. Et cela a vicié le jeu politique au Togo. D'accord. Et quand j'étais intervenu plus tard, pendant la campagne présidentielle de 2003, pour dire donc que Gilles-Christ Olympio n'était pas un leader sur lequel les Togolais pouvaient compter et qu'il ne nous amènerait rien, donc j'étais devenu donc le souffre-douleur de ses vrais opposants et tout ça là. Donc ma démarche a toujours été truc. Donc quand les gens aujourd'hui peuvent encore soupçonner que je sois je ne sais pas quoi et tout parce que ils se trompent.
j'ai toujours eu raison. Quand j'ai pas raison sur le fait immédiatement, le temps me donne raison.
Nicolas Lesson est sincère dans sa démarche.
J'ai pas interpellé Jean-Pierre Favre. J'avais écrit moi-même, en même temps, à Jean-Pierre Favre et au chef de l'État, de se rencontrer pour parler fraternellement parce que le pays était à la dérive. Et donc, on ne peut pas redresser ce pays s'il n'y a que des forces divergentes, s'il n'y a que des divisions, et ainsi de suite et tout. D'accord. Donc, par la suite, quand Jean-Pierre Favre a écrit au chef de l'État pour lui demander de le rencontrer, pour parler donc des réformes constitutionnelles et institutionnelles, j'ai trouvé méprisant de la part de M. Faure-Gnassingbé et inacceptable qu'il oppose à cette démarche-là, que je trouve républicaine de la part de Jean-Pierre Favre, donc cette attitude hautaine, hein, méprisante et tout, ne pas respecter ceux qui font de la politique dans le pays.
D'accord.
Et quand j'ai vu à nouveau que ce chef de l'État-là veut instaurer au Togo un nouveau despotat, hein, et en faisant mettre en scène ce vaudeville-là pour la présentation des vœux, en mettant sous tutelle les présidents des institutions de la République et en faisant lire en leur nom, pas le ministre de la Justice, un communiqué pour approuver ce qu'il fait et tout. Et quand j'ai vu après ceux qui l'assistaient pour recevoir les vœux des Togolais, soi-disant et tout, vous avez Selon Kwasi, vous avez Soli Toki, vous avez sa directrice de cabinet qui cumule et qui s'amuse avec l'argent de l'État et tout. J'ai vu le danger, le grave danger de continuer donc à accepter que cette dérive-là puisse continuer.
D'accord.
Et donc c'est pour ça que j'ai écrit à Jean-Pierre Favre pour lui dire que ce n'est pas une affaire de coalition, mais c'est une affaire d'un engagement ensemble. Sur une vision commune, et la vision commune, ce n'est pas de demander à Faure-Gnassingbé de faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles, c'est de faire partie, M. Faure-Gnassingbé.
On va revenir. Nicolas Lawson, revenons un petit peu sur votre correspondance que vous venez d'adresser au chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Favre, pour justement mener une action commune, comme vous venez de le relever, pour obtenir effectivement les réformes, non seulement aussi pour voir dans quelles conditions fait partie Faure-Gnassingbé. Est-ce que vous avez déjà eu une réponse de la part du chef de file de l'opposition?
Non, M. Jean-Pierre Favre n'est pas actuellement au Togo, parce que non seulement j'ai envoyé la lettre, mais je suis allé chez lui à la maison pour le rencontrer, et c'est pour ça que je peux vous dire avec certitude qu'il n'est pas actuellement à Lomé. Selon ce qu'on m'a dit dans son domicile à Lomé et tout. Et l'essentiel, c'est que je sais qu'il a cette correspondance, je sais aussi que ses collaborateurs, ses amis et tout, ont pris connaissance de cette correspondance et tout. Donc cette correspondance, ce n'est pas d'obtenir seulement les réformes constitutionnelles et institutionnelles. C'est pour aller au-delà, parce que notre pays est en faillite. Vous imaginez M. Faure-Gnassingbé, il est venu, qui voulait se démarquer de Gnassingbé il y a des temps, et il a soi-disant créé son parti uni, qu'il a mis sous le boisseau, et ce sont les kakiti du RPT, qu'il a réunis maintenant autour de lui pour engager son nouveau despotat. Comprenez. Donc, il faut aller au-delà. Quand vous avez quelqu'un qui vient au pouvoir, et on dit le pays est endetté, nous sommes PPTE, et donc on lui donne le bénéfice et on réduit la dette du pays à 20% du PIB. Et en moins de 10 ans, il fait retomber ce pays dans le PPT à nouveau et à 75% du PIB, c'est-à-dire au-delà donc, de ce qui est prescrit par l'UMOA et tout. Et il prétend qu'il a fait des infrastructures mais qui sont improductives, qui a permis à des étrangers et à ses amis de s'enrichir. De façon scandaleuse, comprenez. Et dans le même temps, il veut nous opposer le fait qu'il organise des sommets. Il a organisé un sommet qui a coûté presque 20 milliards sur la sécurité maritime, une charte qu'il n'y a que l'Assemblée nationale togolaise qui a signée, que tous les autres ont mis à la poubelle, vous comprenez ça? Et maintenant, il veut organiser un autre sommet. Donc, le jeu maintenant est devenu celui-là et tout. Non, c'est un délire. C'est scandaleux, comprenez. D'accord. Le pays est en faillite. Et demain, je ne vois pas comment on peut redresser ce pays si on ne mobilise pas toutes les énergies, hein, toutes les énergies humaines, politiques, sociales, économiques et tout, pour se mettre au travail. Ce n'est pas de faire faire à Fonia Sidé. Fonia Sidé ne veut pas de réforme constitutionnelle et institutionnelle. Nous avons fait un travail fantastique au CPDP rénové. Il a jeté ça à la poubelle et depuis, il crée des commissions sur commissions, comprenez, pour duper son monde et tout. Donc, il devient dangereux avec son équipe. Donc, il faudrait que ceux qui aiment notre pays puissent unir leurs forces pour mettre un terme à cela.
Justement, à défaut de l'union de l'opposition, pensez-vous vraiment qu'une unicité d'action est concertée entre de différents leaders de partis politiques pourrait être une des forces de l'opposition face à la situation actuelle? On peut se poser la question de savoir également qu'au regard des mépris de tout genre, égoïsme, guerre de leadership et qui gangrène l'opposition togolaise, croyez-vous sincèrement en cette unicité d'action que vous proposez, Nicolas Lawson?
Moi, j'ai foi, et je le dis et je le répète, c'est le peuple souverain togolais qui va décider demain de changer tout. C'est à ce moment-là, notre peuple appartient, donc cette souveraineté, cette force-là et tout. Et nous avons jusqu'à présent constaté des travers. C'est-à-dire que le peuple togolais a des difficultés pendant les périodes de campagne électorale à pouvoir agir hein, ensemble. Vous avez des gens qui vont dire, surtout dans les lacs là, on mange ici, on vote ici, on mange ici. Donc je suis en train de faire un travail de conscientisation pour faire comprendre au peuple que ce n'est pas des leaders de le sauver, c'est à lui-même. Parce que c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a la souveraineté, c'est quand il sera conscient qu'il sera mobilisé et que nous allons le seconder en standard de la liberté, de la démocratie, du changement et tout, que nous obtiendrons le changement dont nous avons besoin. Donc il ne faut pas tromper les Togolais, il ne faut pas croire que ce n'est pas une unicité de partis, de leaders et tout ça, qu'on y arrivera. Vous avez vu, est-ce que par exemple en Gambie, est-ce qu'ils ont les réformes de tout ça là, avant que le peuple ne se mobilise pour voter contre Yaya Jamé? Mais quand le peuple togolais refusera d'aller frotter pour former pour le RPT l'unir et tout ça, quand nous aurons suffisamment de patriotes et tout, qui disent oui, c'est ça suffit maintenant. Monsieur Fonia Sidi, vous devez partir avec votre équipe et tout, parce que c'est une petite minorité. Ils n'ont même pas le soutien de l'armée ni de la police ni de la gendarmerie. Parce qu'on lui a fait un statut de la police de plus pour augmenter les salaires de nos frères policiers et tout ça là et tout. Non. Et il méprise la grande masse des soldats et tout. Il n'a que quelques officiers à sa botte et tout ça. Donc quand le peuple togolais sera prêt, et il faut une conscientisation pour cela, eh ben, le travail sera beaucoup plus facile pour nous.
Effectivement, Nicolas Lawson, il y a environ 3 mois, vous parliez de révolution pour venir à bout de ce régime cinquantenaire. C'est-à-dire que vous avez, en tant que président d'une formation politique, là, vous ne croyez pas aux élections comme un moyen pour arriver à une alternance, et car justement, il se susurre et que les élections législatives auront bel et bel lieu en juillet 2018.
Non, vous savez, je suis pas, le PN n'a pas participé aux élections législatives de 2013. C'est pour ne pas handicaper ceux qui y participaient. Ça, c'est déjà un. Et puis, des deux, aux élections présidentielles de 2015, le PN s'est aussi retiré pour qu'il n'y ait pas trop de division et tout. Parce qu'on a vu, soi-disant, coalition collective, tout ça, se bagarrer, hein, se diviser et tout. On n'a pas voulu ajouter à ce désordre-là. Mais nous avons vu que pour la dernière élection présidentielle, il y a eu moins de 30% des Togolais qui ont participé. Nous sommes allés demander, genre, pourquoi vous n'avez pas été? Ah oui, parce qu'ils vont encore voler. Oui, parce que vous ne voulez pas y aller, ainsi de suite et tout. Donc le peuple togolais, dans sa majorité, est prêt. Le peuple est prêt maintenant pour pouvoir opérer le changement et tout. Et le peuple attend donc ce moment-là. Donc nous devons nous préparer. Et quand il est prêt, nous sommes prêts et tout, il va y avoir cette rencontre historique qui va créer la dynamique pour changer ce gouvernement liberticide et populiste et tout. Et je suis persuadé que l'année prochaine, nous serons au rendez-vous des élections législatives, et si M. Fonia Sidé persiste dans sa démarche pour aller jusqu'aux élections présidentielles de 2020, nous allons le battre proprement dans les urnes qu'il tente avec sa minorité de faire échec à cela, donc ce sera une vie pour une vie. Nous nous battrons, nous sommes prêts et tout. Vous savez, chaque chose a son temps. Quand le moment n'est pas arrivé, vous aurez tous les travers, les dérives et tout ça là et tout. On en a maintenant. La gouvernance de M. Faure Gnassingbé fait déborder le vase et il va en subir les conséquences, qu'il le sache.
Vous ne cessez pas de parler de révolution. Alors certains citoyens estiment qu'il ne peut y avoir de révolution au Togo car le peuple n'est pas suffisamment formé. Alors quel travail fait votre parti dans ce sens-là?
De quoi ils parlent, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils savent de ce qu'ils disent? Moi, j'ai participé à tous les mouvements depuis 1976. Je vous le dis, tous les pour aller jusqu'à la conférence nationale, l'animation de la conférence nationale. On nous a séquestrés au Haut Conseil de la République et tout. J'ai confronté Gnassingbé à plusieurs reprises de son vivant. Il arrêtait les programmes de radio, de télévision quand je l'attaquais de façon frontale et tout. Donc, je suis persuadé que ce qu'on a appelé le 5 octobre et tout, quand on aura maintenant un mouvement demain, ce ne sera pas un mouvement pour avoir la liberté d'expression et tout cela. Ce sera un mouvement de la faim, un mouvement de la misère, donc un mouvement de la colère. Et ce sera une insurrection populaire pour chasser la minorité que M. Faure Gnassingbé fabrique dans ce pays et tout. Parce que rien n'est permanent. Il faut que les gens sachent cela et tout. Ceux qui ne croient pas, ben ils ont le droit de ne pas croire. Comme hier, ils déversaient pour aller faire des longues files de trucs pour recevoir le Messie, l'opposant historique et tout. Ils se sont toujours trompés. Et ils se trompent encore. Parce que moi, je suis dans le pays, je suis sur le terrain, je circule partout dans le pays. J'ai pas besoin d'annoncer cela que ah, je suis parti ici, j'ai fait ceci, j'ai vu tant. Non, je fais partie du peuple. Et je suis un peu l'âme de ce peuple du Togo et tout. Donc, j'ai confiance, j'ai foi.
D'accord.
Et c'est cette intuition, cette sensation-là que j'avais en disant que la solution de notre pays pour le changement n'était pas Jikis Olympio et son parti et tout. Je sais aujourd'hui qu'il y aura dans ce pays une révolution pour balayer le désordre qu'il y a aujourd'hui dans notre pays.
Donc, du coup, c'est une question de temps. Parlons un petit peu d'actualité. Cette semaine, nos confrères du journal alternatif titraient à la une de leur journal, je cite, « Problématique de l'alternance au Togo en Afrique. Faure Gnassingbé, la seule curiosité dans l'espace CDAO et de l'UMOA. Une honte ». Ou fierté? Alors, Nicolas Lawson, c'est une inquiétude que soulèvent nos confrères de l'alternative. Est-ce que vous êtes tenté d'y répondre?
Alors, vous savez, M. Faure Gnassingbé, je le comprends maintenant, parce qu'il a réussi à s'entourer des pires anti-patriotes. Et il a réussi à créer cette minorité-là, de corrompus, d'ajouteurs, ainsi de suite et tout. Comment vous pouvez faire de votre directrice de cabinet en même temps une ministre avec 6 portefeuilles et tout, vous lui laissez l'argent de l'État pour aller prolétariser nos mères, nos jeunes gens et tout. Comment pouvez-vous laisser les étudiants dans un état lamentable, aller à l'université de Lomé? C'est pire que quand moi j'y étais en 1976 et tout ça là et tout. Et aujourd'hui, ils ne trouvent pas 18,540,000,000 pour accorder à tous les fonctionnaires togolais 30 000 francs CFA par mois pour leur allocation, l'hommage et logement et tout. Et ils laissent les étudiants 15 000, ils ne payent même pas. Alors qu'il suffit seulement de 36 milliards, on donnera à tous les étudiants de Lomé, de Kara et des universités, instituts privés et tout, des bourses de 30 000 par mois parce qu'il y a 40 ans, nous, on recevait 18 000. On prenait avec le coût de la vie, ils ne trouvent pas tout ça là. Et monsieur fait des sommets à 20 milliards, monsieur veut faire encore d'autres sommets et tout. Vous voyez le désordre qu'il y a dans ce pays et tout. Donc c'est ça. L'injustice provoque les révolutions. C'est naturel. C'est la loi de la vie. C'est la loi de l'évolution et tout. Donc c'est sur ça que moi je compte et je suis dans le pays. J'écoute les gens. Il y a dans ce pays aujourd'hui de la haine. Il y a des ressentiments, il y a des frustrations, il y a des colères qui sont sourdes et tout, parce qu'ils attendent l'étincelle qui va hein, allumer donc la mèche et tout. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant à l'avenir. C'est ça qui fait que le combat que je mène, c'est pas un combat qui est un combat destiné contre qui que ce soit et tout, mais c'est pour le salut de notre peuple. Je lui avais dit quand je lui écrivais qu'il fallait créer un gouvernement de salut public et tout. Parce que les Africains, qu'est-ce que nous croyons? Que cette forme de démocratie-là, où on dit qu'il y a une majorité qui prend tout et qui laisse le reste dans la misère et tout, c'est pas ça qu'il faut pour l'Afrique. Nous sommes encore un continent pauvre. Nous avons plein de gens qui doivent maintenant se former, hein, des hôpitaux à créer, des écoles, tout ça là et tout. Donc on ne peut pas, par exemple, avec 30% de gens qui ont voté à une élection, prendre tout et prolétariser les autres, appauvrir les autres, hein, excommunier les autres et tout. Ça ne peut pas marcher en Afrique, vous comprenez. C'est cette forme-là que les gens croient que, bon, ben non, nous sommes obligés encore et pour des années travailler ensemble, vous comprenez, de façon fraternelle, dans l'ordre, dans la justice, avec la discipline et tout, pour pouvoir construire nos nations. C'est donc clair. Les gens font des analyses et tout ça, et vous voyez, bon, hein, n'importe qui veut pouvoir se faire, je sais pas quoi, des journalistes et tout, veulent faire le travail des politiciens et tout, dénigrent certains politiciens parce qu'on leur donne 400 000 ou parce qu'ils ont des protecteurs qui sont... Non. Le système partisan, les partis politiques et tout, quand il y en a trop, ça devient un déchet, un dégât. C'est nuisible pour nos nations. C'est pour ça qu'en 2003 déjà, je proposais qu'au Togo, on revienne à un système de bipartisme où il n'y a que deux partis politiques financés par l'État. Donc ceux qui gèrent ces deux partis-là ne doivent être candidats à aucune élection. Leur mission est de préparer avec leurs militants et tout les programmes des partis politiques pour proposer ça au peuple. Et si le peuple choisit le parti A, ben le parti B reste dans l'opposition et fait des améliorations à son programme, fait des critiques et finit par arriver au pouvoir ainsi de suite. Parce que nous avons un peuple à 80% d'analphabètes. Et vous avez A qui vient aujourd'hui, qui lui dit ça, B vient, Z vient, Y vient. Donc ce désordre-là, il faudra demain aussi mettre un terme à ça.
C'est clair.
Et nous avons cette propension à la division au Togo qui est nuisible, qui est néfaste aussi.
En tout cas, merci beaucoup Nicolas Lawson, président du PRR, Parti du Renouveau et de la Rédemption. Merci de nous avoir accompagnés en direct depuis Lomé. Bonsoir.
Merci, bonsoir à vous.
Peuple togolais, pouvoir et opposition, société civile, nous sommes tous concernés par l'appel républicain de nos évêques. Faisons notre devoir citoyen en disant non à la nationalisation de l'indifférence. Armée togolaise, gardienne de notre dénigrement. Tu es aussi concerné par cet appel républicain de nos évêques. Lève-toi et défends tes fils et filles.
Soso gloso Elole.
La patrie nous appelle. Peuple togolais, l'heure du réveil a sonné. Toutes et tous, bâtissons la cité.
Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, milagro wello. Oui d'accord, avion la voie.
Ceci est un message de la diaspora togolaise sans couleur politique.
Eh bien, merci de votre fidélité sur le 3xW.canalk.ch et ses radios partenaires vont également commenter et analyser la situation sociopolitique au Togo avec nous. Deux membres de la diaspora togolaise, nous accueillons d'abord Doyen Senouvo Agbocha Zissou. Il est ancien haut commissaire de la République, auteur de plusieurs articles sur le combat démocratique en Afrique, notamment au Togo. Senouvo Agbocha Zissou, bonsoir.
Bonsoir, Sylvain Mousse.
Merci d'être avec nous en direct depuis Munich en Allemagne. De l'autre côté de la région parisienne, nous accueillons John Semoura. Il est membre de ATO, l'Association des Togolais Libres. Bonsoir, John Semoura.
Bonsoir aussi à ce nouveau en Allemagne et du courage dans vos œuvres.
Bonne heureuse nouvelle année donc.
Merci. Justement, John Semoura, vous avez suivi dans la première partie et Claude Amegavi qui a donné sa vision des choses sur la situation sociopolitique au Togo. D'abord, quel est votre commentaire?
Bon, Sylvain Amos, d'abord, en ce début d'année, permettez-moi de souhaiter mes voeux à tous vos éditeurs et à vous-même et donc à tous les Togolais qui sont dans la lutte. Effectivement, j'ai écouté ce que les messages venant du Togo et donc je pense que dans la situation actuelle, nous ne devons pas oublier l'histoire du Togo et que nous venons d'assez loin. Je ne crois pas à ceux qui disent que bon le Togo est envoûté, c'est pas du tout le cas. Nous vivons une situation néocoloniale pour aller vite. On a ce qu'on peut appeler l'indépendance à Nassara, c'est-à-dire un néocolonialisme armé de Déadéma et puis après Déadéma à son fils. Alors par rapport à ce que Claude Amegavi a dit, moi je dirais que il faut à la fois demander peut-être demander les réformes, mais moi je pense qu'il faut au jour d'aujourd'hui aller au-delà et demander carrément un changement de régime. Et si nous arrivons à avoir le changement de régime, toutes les réformes que nous souhaitons elles se feront en un temps éclair, je dirais, en moins de 24 heures. Parce qu'actuellement, si on demande les réformes, F-O-R-T, et pense que, bon, les gens viennent s'agenouiller devant son fauteuil, le prier pour que les choses changent. Mais je pense que il faut travailler à inverser le rapport de force et à l'obliger plutôt à quitter. Et là, je suis d'accord avec les analystes venant de Lomé, à quitter le fauteuil présidentiel. Et si les choses changent, si le régime change, comme nous devons l'exiger, les réformes, nous les ferons nous-mêmes. Nous n'aurons plus à les demander à qui que ce soit.
D'accord.
Et s'il faut par exemple parler aussi du franc CFA, ou maintenant, ou bien peut-être plus tard, le franc CFA, disons que c'est un franc colonial. Vous savez, c'est un franc que le régime gaulliste a imposé, parce que le régime gaulliste des années 58-60 ne voulait en réalité pas décoloniser. La décolonisation s'est faite contre la volonté de Général de Gaulle, lequel de Gaulle ne voyait pas ce pays indépendant avant les années 2010, d'après les mémoires même de ses ministres, tels que Alain Perfit qui était de ses ministres. Donc, en réalité, de Gaulle ne voulait pas d'indépendance et ils ont donné un exerce d'indépendance aux pays africains. Et cette indépendance-là ne peut conduire qu'à la misère, ne peut conduire qu'à la ruine. Et ceux qui sont à la tête de nos États sont là, non pas pour le peuple africain, non pas pour le peuple togolais, mais d'abord pour défendre les intérêts étrangers, et puis après, eux-mêmes, ils pillent pour avoir leur part. C'est ainsi que nous avons lu, et c'est écrit dans le livre, que à la mort d'Adéma, il avait 4,5 milliards de dollars dans son compte, et que cet argent-là était trois fois la dette extérieure du Togo. Donc, ce que nous devons demander dans l'état présent, ce n'est plus que les réformes. Moi, je dis qu'il faut exiger un changement de régime.
D'accord.
Et c'est ce pourquoi nous devons mobiliser et tout notre peuple, les syndicats, les élèves, les membres du corps médical et toutes les corporations, les chauffeurs, toutes les forces vives du pays doivent être mobilisées en vue d'une seule et unique chose, le changement de régime. Mmh. Et ça dépasse même la notion de réforme actuellement.
D'accord. On va en parler de cette mobilisation justement au niveau de la diaspora togolaise, puisque nous sommes dans la diaspora togolaise. Nous allons voir ce que pense également le doyen Senouvo Agbota Zissou depuis Munich en Allemagne. On a parlé des élections frauduleuses en 2015. On parle maintenant des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Fort vient de mettre en place une nouvelle commission pour pencher ou bien réfléchir sur les réformes politiques. Justement, vous avez suivi également Claude Amegavi. Que pensez-vous de cette nouvelle commission que vient de mettre en place Fort Nyasimbe?
Merci Sylvain Amos de me donner la parole. Vous dites bien nouvelle commission. Cela signifie qu'il y en a eu d'autres. Cela signifie peut-être aussi qu'il y en aura encore d'autres. Bon, parlons de celles qu'il y a eu déjà et qui peuvent être de tout genre, de toutes couleurs et qui s'étaient occupées de différentes questions, etc. Alors, on peut se demander pourquoi les autres commissions, objectivement, n'ont pas abouti aux objectifs qui leur étaient assignés. Non pas par rapport à celui qui a formé ces commissions, mais par rapport aux aspirations du peuple togolais. Pourquoi ces commissions-là n'ont pas travaillé de manière à satisfaire le peuple souverain togolais? Et la deuxième question qui est liée à la première, c'est de savoir pourquoi le peuple souverain, non pas les politiciens, ce peuple souverain n'a-t-il jamais été satisfait et a continué à réclamer des réformes? On peut alors se poser des questions subsidiaires. Ces questions subsidiaires sont, par exemple, de savoir à quoi ont servi les commissions censées sortir le Togo de la crise. Depuis l'APG, ou à partir de l'APG, on peut citer aussi les commissions comme Vérité, Justice et Réconciliation. On peut y ajouter les cadres permanents de concertation et de dialogue. Il y en a eu deux, à ma connaissance. On peut y ajouter les instances qu'on pourrait dire institutionnelles, comme l'Assemblée nationale, par exemple, qui, entre-temps, avait été saisie par le gouvernement pour résoudre la question des réformes. Bon, on peut se demander aussi à quoi a servi, par exemple, cette réunion, cette concertation présidée par Monseigneur Barriga. Je dirais même que on peut aller plus loin en se demandant pourquoi les différents partis d'opposition, leur direction, n'ont pas permis de régler ces problèmes de réforme. En particulier, lors, par exemple, des ateliers qui ont été organisés par le H-Krun. Alors, le véritable problème, à mon avis, est que nous sommes dans un système qui veut, avant tout, conserver un pouvoir.
Donc, c'est nous, Gota Zissou, vous rejoignez donc Claude Amengavi, qui pense que Faure ne veut pas faire, ou bien ne veut pas opérer les réformes.
Je crois que c'est tout. Tourner autour du pot, ou nous tourner en bourrique, mais tant qu'on ne le laisse pas se perpétuer au pouvoir, eh bien, tant qu'on ne le laisse pas tranquille, jouir du pouvoir, eh bien, je crois que c'est ça sa stratégie dans l'intervention de Claude Amengavi. Moi, j'ai retenu un réseau de mots, balayer, chasser, déloger. Eh bien, ces trois mots-là aboutissent à la révolution. Pour réaliser ces trois choses qui consistent à balayer le pouvoir Gnassingbé, à chasser le pouvoir Gnassingbé, à déloger le pouvoir Gnassingbé, il n'y a qu'un mot qui résume tout cela. Eh bien, ce mot s'appelle révolution. Voilà.
Vous parlez de révolution, comme je viens de soumettre cette question aussi à Nicolas. Nous sommes en direct depuis Lomé. Justement, est-ce que le peuple est prêt pour cette révolution-là? Puisqu'on a vu, il semblerait que le peuple est résigné hein, par rapport à ce silence même. Hein. Il y a eu des grèves des enseignants que les parents devraient pourraient soutenir, mais on voit. Comment est-ce qu'on peut comprendre le silence de cette population-là?
Je ne crois pas que l'on puisse parler de résignation. Je crois que le peuple attend quelque chose ou il attend des hommes. Et les hommes qu'il attend ne sont malheureusement pas les hommes que nous voyons, les hommes qui sont à la tête des partis, les hommes qui ont le don d'haranguer les foules. Non, les hommes que le peuple attend sont des hommes qui n'ont pas des objectifs personnels de conquête du pouvoir pour eux-mêmes, ni de partage, ni surtout pas des objectifs de partage du pouvoir. La plupart de ceux que nous avons actuellement, on nous a dit par exemple que la commission qui est formée actuellement est une commission formée d'intellectuels. Qu'est-ce que ça veut dire intellectuel? Eh bien, les intellectuels, il y en a toujours eu dans notre pays. Mais les intellectuels n'ont pas permis de sortir de la crise. Les intellectuels sont peut-être à l'université, et pour certains, il vaut mieux qu'ils restent à l'université. Mais à partir du moment où ils se mettent sur le marché public, à partir du moment où ils sont dans une position de vente de leur savoir, de vente de leur statut d'intellectuel, tout comme des hommes qui sont arrivés à la tête des partis sont en position de vente de leur position de chef de parti, eh bien, nous n'aboutirons pas. Et c'est cela qui nous bloque, qui bloque la situation. Il faut absolument que l'on fasse du discernement, que l'on reconnaisse parmi les hommes, ceux qui sont là pour vendre quoi que ce soit. Je crois que M. Claude Mégavi a longuement parlé de commerçants, de marchands. Eh bien, à partir du moment où ces gens qui sont là pour vendre quoi que ce soit bloquent la situation ou bloquent le chemin à la population, eh bien, la révolution n'interviendra pas.
D'accord, d'accord, d'accord. On va voir ce que pense également notre deuxième invité qui n'est autre que John Semoura. Je le disais, il est membre de l'association des Togolais libres. John Semoura, les réformes sont toujours en entente. Décentralisation, élections législatives et finalement, on parle de soulèvement populaire. Est-ce que ce soulèvement populaire est-il possible quand la résignation du peuple se fait remarquer et surtout par son silence depuis la grève des enseignants qui s'intensifie ces derniers temps?
Oui, effectivement, la révolution, ou bien, moi j'appelle ça une grande insurrection, mais est toujours possible, mais il faut pour cela définir au peuple un objectif clair. Je vais d'abord commencer par dire un mot de ce qu'on appelle, les intellectuels et autres. Ben, les intellectuels, Hitler aussi en son temps en avait eu. Un intellectuel, ça ne veut pas dire grand-chose, a priori, au point de vue tendance politique. Est-ce que le régime qui est là veut qu'on l'éclaire et pour une orientation dans l'intérêt du peuple? Nous ne croyons pas. Donc, et ce que le régime fait, c'est uniquement du théâtre. Ce théâtre consiste en quoi? À divertir le peuple avec les commissions, et de commission, on va en atelier, de l'atelier, on va au cadre permanent, du cadre permanent, on va au comité, ainsi de suite. Donc, on peut appeler ça une sorte de cantate, de théâtre, un grand divertissement. Au sens pascalien, ça dit pour ne pas s'occuper de ce qui est essentiel, pour divertir le peuple, afin que ce peuple-là ne lui demande pas des comptes. Quel est ce pays qu'on gère et où on ne rend jamais compte au peuple? Mais c'est une gestion pire que le style colonial. Dans le style colonial, le gouverneur que nous avons connu, nous autres qui avons connu ces gouverneurs dans les années 40 jusqu'aux années 60, ces gouverneurs n'ont jamais de compte à rendre au peuple parce que le Togo était... Enfin, presque une colonie, d'accord? Bon, et Adama et son fils, actuellement, gèrent le Togo comme si c'était une colonie et ne donnent aucun compte rendu, ne rendent aucun compte au peuple. Donc, ces commissions-là, c'est pour divertir le peuple et il appartient à ce peuple de se prendre en main. Mais pour se prendre en main, il faut que ce peuple-là, on lui donne des objectifs clairs. Prenons par exemple le cas de la grève des enseignants. Bon, cette grève-là est une grève effectivement qu'il faut soutenir. Parce que si on a dépensé plus de 10 milliards pour faire un sommet sur la sécurité maritime dont le Togo aurait pu se passer, puisque ce sommet a été reporté deux fois, donc la deuxième fois, on aurait pu l'annuler. Bon, si on a dépensé plus de 10 milliards pour faire un sommet sur la sécurité maritime, et après on dit aux enseignants qu'il n'y a pas d'argent pour satisfaire leurs revendications, nous disons que ces enseignants-là, effectivement, ont le droit de réclamer leur dû, et c'est en clair. Même temps, ils ont un travail à faire à l'égard de la population,
okay,
pour dire qu'ils ne s'en prennent pas aux élèves, ils ne s'en prennent pas aux parents, mais qu'une bonne école demande du personnel formé et du personnel motivé, et que le régime qui est là actuellement ne peut pas faire cela. Donc, le peuple peut se mobiliser, n'est-ce pas? Le peuple peut se soulever, mais il y a un travail de conscientisation, de politisation à faire.
D'accord.
Et tant que ce travail de base-là n'est pas fait, bon, c'est pas demain la veille, hein. On a affaire à un régime néocolonial armé. Et ça, c'est pas un régime dont on se débarrasse facilement.
D'accord.
Parce que si nous voyons dans les autres pays, hein, et où il y a eu le régime colonial jusqu'à ce qu'on arrive à une véritable indépendance, et c'est une lutte assez longue, très longue, parce que le régime néocolonial, on n'arrive pas à s'en débarrasser facilement. Donc, au niveau du peuple, il y a un travail de mobilisation à faire et aussi d'objectifs clairs à définir à ce peuple.
D'accord. On va voir ce que pense également Doyen Senouvo Agbota Zissou depuis Munich en Allemagne. Vous avez également suivi tout à l'heure le président du PRR, Nicolas Lawson, qui vient d'écrire une correspondance à Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition. Justement, l'objectif, c'est de mener une action commune, une unité d'action. Mais justement, au regard des mépris de tout genre, égoïsme, guerre de leadership qui gangrène cette opposition-là, est-ce que vous croyez sincèrement à une unité d'action? Et quelle est votre analyse là-dessus?
Une unité d'action. Je crois que ce qui est important, ce que j'ai retenu de l'intervention de Nicolas Lawson, c'est que lui également parle de révolution. Maintenant, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord sur la manière, etc. Moi, je ne crois pas que quelques chefs de parti, que ce soit actuellement, soient légitimés et autorités à prendre le devant de la lutte. Parce que si nous analysons bien la situation, Jean-Pierre Fabre a été nommé chef de file de l'opposition. Par qui? Est-ce que la personne qu'il a nommée chef de file de l'opposition est lui-même habilité? Est-ce qu'il a autorité à le nommer chef de file de l'opposition? Donc, moi, personnellement, je n'aurais pas écrit ni à Jean-Pierre Fabre, ni à Agbouibo, ni à Pévon, ni à qui des chefs de file, des chefs de parti de l'opposition que ce soit, pour lui demander de prendre le devant de la lutte. Je crois qu'il nous faut reconnaître que nous sommes dans une situation de déficit de crédibilité en ce qui concerne nos chefs de parti. Et que écrire à l'un ou à l'autre, ça ne donne pratiquement rien.
Mais justement, c'est nouveau à Agbota Zissou, je pense que le président du PRR, Nicolas Lawson, il a finalement réalisé que CAP 2015, ou notamment ANC, Alliance Nationale pour le Changement, et gère le terrain. Ils savent qu'ils sont populaires, ils savent qu'ils doivent aller vers le chef de file de l'opposition pour pouvoir ratisser large. Justement, je pense que c'était sa logique.
Oui, non, cette logique-là est la sienne. Mais elle n'est pas la mienne. Si Jean-Pierre Fabre ou Agbouibo ou Apévon ou un autre chef de parti, Aimé Gougué, pour ne citer que cela, si l'un d'entre eux est candidat à l'élection présidentielle, à partir de ce moment-là, nous pouvons parler de les soutenir ou de ne pas les soutenir. Mais si nous voulons faire confiance à l'un d'entre eux, c'est une autre question. Parce que je ne crois pas du tout que en la situation actuelle, l'un de ces hommes-là puisse se transformer du jour au lendemain en homme providentiel. Maintenant que les foules les suivent, nous pouvons nous poser la question d'ici de savoir qu'est-ce qui permet de fonder la légitimité de ces gens-là à conduire les foules. Et où est-ce que ces gens-là, ou l'un quelconque de ces gens, puisse nous mener à bon port? Personnellement, je suis sceptique là-dessus.
D'accord, d'accord. On peut vous comprendre. On va voir ce que pense également sur ce sujet-là et une cité d'action et avec notre invité également, John Semoura. Et là, on parle de s'organiser. Le peuple doit s'organiser. Et l'opposition aussi doit s'organiser. Là, Nicolas Lockson, président du PRR, parti du renouveau et de la rédemption, vient d'adresser une lettre au chef du fait de l'opposition pour une cité d'action. Et qu'est-ce que vous en pensez, John Semoura?
Quand on mène la lutte, il y a ce que l'on souhaite et il y a ce que le terrain peut contraindre de faire. Moi, je pense que et nos gens qui sont sur le terrain, ce ne sont pas des anges. Je veux pas là dire qu'ils doivent quand même vivre tout en faisant la politique. Autrement dit, dans une situation donnée, bon, il faut voir comment arriver à se comporter concrètement. Notre opposition a une partie avec laquelle les forces patriotiques peuvent travailler et il y a une autre partie qui peut poser problème parce que cette partie-là n'a pas une position claire par rapport au pouvoir. Donc, moi, avoir des rapports avec le pouvoir, a priori, je n'y vois pas d'inconvénient. D'accord? Parce qu'il faut quand même exister sur le terrain avant de pouvoir faire la politique. Bon, maintenant, l'unité d'action, avec qui? Pour moi, c'est là le gros problème. Chaque parti qui a un passé, nous devons en tenir compte. Pour savoir avec qui, aujourd'hui, on peut faire.
D'accord. Ma question était, et Nicolas, lorsqu'on vient d'adresser une lettre au chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, et pour une cité d'action, pour les réformes, bien, pour s'organiser, pour faire partir, Fona Simbe. Quelle est votre analyse là-dessus?
Bon, mais moi, je dis que c'est une bonne chose. Bon, après, nous verrons bien et ce à quoi cela va conduire. D'accord? Donc, voilà une unité d'action et traduit une certaine disponibilité pour aller de l'avant. Bon, mais maintenant, il faut que si cette unité d'action-là est décidée, on voit les pas que chaque parti fait, si ces pas-là vont dans l'intérêt du peuple, ou bien si ces pas, n'est-ce pas, conduisent à des positions divergentes. Mais bon, je dis que a priori, c'est une bonne idée que les forces patriotiques, les forces de progrès se coalisent en vue de faire quelque chose qui puisse faire avancer la lutte.
D'accord.
Donc, a priori, moi, je suis favorable.
Très bien. Senouva Gbotaz, ici, nous avons encore 10 minutes pour clôturer cette émission. Alors, nous parlons d'action au niveau de la diaspora. Vous-même, vous l'avez évoqué en début de cette émission, soulèvement et populaire révolution. Alors, la diaspora togolaise doit aussi s'organiser. Et justement, USDCT, Conseil de la diaspora togolaise aux États-Unis, vient de mettre en ligne depuis près de 2 semaines une pétition dont l'objectif est de plaider notre cause commune auprès des instances internationales, justement aux États-Unis, alors pour obtenir l'alternance tant souhaitée. Est-ce que vous avez pris connaissance de cette pétition et quelle est votre analyse de cette action?
Eh bien, la première chose, c'est de savoir à quoi va aboutir cette initiative. Si la question m'est posée de savoir mon opinion sur l'initiative elle-même, eh bien, je dirais que mon opinion est favorable.
Elle est bonne.
Mais, qu'il me soit permis ici d'utiliser, pour l'analyse, la technique, si vous voulez, académique de la théorie de la communication. Suivant le schéma émetteur-message-destinataire. Ici, l'émetteur est-il suffisamment crédible? A priori, je dirais oui. L'émetteur est-il suffisamment puissant ou utilise-t-il un médium suffisamment puissant pour être entendu. Pour moi, point d'interrogation. Je veux dire qu'une telle initiative gagnerait à être prise, au moins par toute la diaspora togolaise, sinon par tous les acteurs politiques togolais qui souhaitent la fin du système.
Exactement.
Alors, et donc, il reste du travail à faire, à la fois pour que toute la diaspora togolaise et ensuite tous les acteurs politiques togolais et autant que possible tout le peuple togolais participe à l'initiative. Et il y a beaucoup d'obstacles encore à franchir pour en arriver là.
C'est clair. Justement.
Bon, alors, l'autre chose, c'est au sujet du destinataire du message. Lorsque l'on parle de communauté internationale, lorsque l'on s'adresse aux États-Unis, aux dirigeants américains, aux dirigeants français, anglais, allemands, etc., etc., je dis, c'est bien, mais il faut reconnaître que s'il n'y a que ces gens-là pour nous aider à atteindre nos objectifs, eh bien, il n'est pas sûr qu'on y arrive facilement.
On a bien compris ce que vous voulez dire. Donc, en gros, il faut que les Togolais comptent sur eux-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette pétition mise en ligne par USDCT, Conseil de la diaspora togolaise basée aux États-Unis, justement il y a près de 2 semaines que la pétition est en ligne. John Semoura.
Voilà, Sylvain, effectivement, comme tu m'en as informé, et cette pétition, je l'ai lue et je l'ai lue attentivement hier. D'abord, je dis que c'est une belle initiative et des patriotes togolais qui sont aux USA. Cette initiative mérite d'être saluée et approuvée. Bon, maintenant, il y a une nouvelle direction de la politique américaine et quel sera l'impact de cette initiative sur cette direction-là? Pour l'instant, nous sommes dans le doute, nous sommes dubitatifs. Parce que le nouveau président américain semble se concentrer avant tout et sur les problèmes même de l'Amérique et tout ce qui est à l'extérieur de l'Amérique et même de l'Amérique USA ne semble pas beaucoup l'intéresser. Donc je dis que pour l'instant, c'est encore le candidat Donald Trump qui est à la Maison Blanche, mais pas tout à fait encore le président Donald Trump. Mais continuons, je dis que c'est une bonne initiative, et il serait bon que effectivement cette lettre là tombe aussi dans la main de l'ambassadeur des États-Unis et à Lomé, et que donc ça continue à se propager. Mais comme c'était Kamal l'a dit effectivement, comme je viens de le dire, ce nouveau là je l'approuve. Et tout le travail dépend avant tout de nous-mêmes.
D'accord, hein? D'accord. On va finir rapidement force, l'émission.
Et cette force-là n'est qu'une force d'appoint qui veut bien nous soutenir parce que à ce niveau élevé, ce n'est que les intérêts qui comptent.
C'est clair. Donc, en gros,
pas toujours des intérêts convergents.
D'accord. Oui? En gros, vous soutenez cette initiative, cette pétition et que on espère que tous les Togolais à l'écoute peuvent signer également cette pétition. Qu'on peut retrouver également sur notre page Facebook, Fenêtre sur l'Afrique. On va rapidement clôturer cette émission en une minute. Vous avez chacun une minute pour conclure cette émission. Senouva Gbota Zissou, que direz-vous pour conclure cette émission puisque vous parlez de révolution?
Eh bien, pour conclure cette émission, je dirais simplement que différentes initiatives sont prises, ça et là, aussi bien sur le territoire que au sein de la diaspora, mais il faut que nous sachions une chose, c'est que il n'y aura pas d'initiative qui atteigne son objectif si cette initiative-là n'est pas entré, n'est pas ancré profondément dans le peuple togolais, dans le quotidien du peuple togolais, et en nous souvenant tout simplement des 22 engagements que la communauté internationale ou la soi-disant communauté internationale a fait prendre au système togolais, croyant peut-être que par là on pourrait résoudre notre problème.
D'accord.
Eh bien, non, une fois l'APG signée, les gens se sont frottés les mains et ont laissé les Togolais se débrouiller jusqu'ici. Et nous nous débrouillons jusqu'ici, mais même dans le sang, avec la sueur, et nous n'atteignons pas nos objectifs parce que nous ne prenons pas notre propre lutte en main. Il s'agit pour le peuple togolais de se dire, nous avons échoué parce que nous avons adopté telle ou telle position, parce que nous avons cru en telle ou telle communauté internationale, en tel ou tel leader. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est nous-mêmes qui allons le décider.
Merci, merci. On va s'arrêter là. C'est nous-mêmes qui allons décider. Vous comptez sur le peuple togolais lui-même. Rapidement, 30 secondes, puisque le temps s'écoule rapidement. John Semora, que direz-vous pour conclure cette émission?
Bon, mais moi, je donnerai cette image-ci. Faisons comprendre à nos dirigeants que le lac est en apparence calme, mais que sous le lac, il y a un volcan, et que si le lac prend feu, on ne sait avec quoi éteindre le feu. Donc, travaillons à ce que le volcan se manifeste et que le lac prenne feu.
D'accord.
Merci, Sylvain.
Merci.
Bonne et heureuse nouvelle année 2017.
À vous aussi. Nous avons reçu Doyen Sinouva Gota, ancien haut-commissaire de la République, auteur de plusieurs articles sur le combat démocratique en Afrique, notamment au Togo. Et Doyen John Semora, qui intervenait depuis la région parisienne. Il est membre de ATO, l'Association des Togolais Libres. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais pour finir cette émission en toute douceur, nous vous proposons tout de suite une belle chanson de cet artiste togolais, Jade Fossis, un artiste bien engagé. Il réside en Allemagne, mais actuellement, il est au Togo. Il est en train de lancer son album. Mais il y a encore un nouvel album qui vient de sortir. Et justement, la conférence de presse a eu lieu déjà à 16h aujourd'hui au restaurant Beau Village. Il a chanté « Oh Africa ». Merci de nous avoir suivis sur nos radios partenaires. Bonsoir.
Africa, oh Africa,
ne pleure pas,
oh Africa,
sèche tes larmes.
Liberté confisquée, indépendance tronquée, tu as été violé par tes propres enfants. Liberté confisquée, indépendance tronquée, tu as été vendu à la World Mafia. Africa, oh Africa,
ne pleure pas,
oh Africa,
sèche tes larmes.
Liberté confisquée, indépendance tronquée, tu as été violée par tes propres enfants. Liberté confisquée, indépendance tronquée, tu as été vendue à la World Mafia. Que revienne ta liberté d'antan, que revienne ton indépendance réelle. Comme a voulu
Kwame Nkrumah,
comme a voulu
Sylvain Nsoulibé,
comme a voulu
Modibo Keïta,
comme a voulu
Haïlé Selassie,
comme a voulu
Sékou Touré,
comme a voulu.
est confisqué, indépendance tronquée, tu as été violé par tes propres enfants. Liberté confisquée, indépendance tronquée, tu as été vendu par la World Mafia. Tu as été violé par tes propres enfants et vendu à la World Mafia. Pourquoi la vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui? Tes enfants sont forcés de te trahir, mais innocent-nous pour que la liberté, la paix puisse revenir en Afrique. Ja Rastafari.